Vous êtes sur RTL. Yves Calvi, RTL Matin.
Pour tout savoir des coulisses de l'info.
RTL Matin avec Yves Calvi, 7h19.
Le cardinal Barbarin et 5 autres membres du diocèse de Lyon sont donc jugés à partir de ce matin pour non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineurs. Une étape très importante pour les victimes.
RTL Matin, 3 minutes pour comprendre.
Bonjour Pierre-Emmanuel Germain-Thil.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL en direct depuis notre bureau de Lyon. Vous faites partie des victimes non prescrites du père Prénat, dont on attend le procès dans le courant de cette année, je le rappelle. Et vous serez évidemment au procès du cardinal Barbarin. Qu'en attendez-vous très précisément? Qu'en espérez-vous?
Bah écoutez, on attend qu'il y ait un débat de fond pour que les choses soient à la fois révélées, comprises, parce que c'est pas vraiment le procès du cardinal Barbarin, c'est le procès de la hiérarchie, puisqu'il y a 6 personnes citées dans cette citation, dont quelqu'un du Vatican qui malheureusement ne sera pas là aujourd'hui, puisque le Vatican nous a fait valoir une immunité diplomatique.
Vous nous dites que c'est beaucoup plus le procès d'un système que celui d'un homme ?
Tout à fait, puisque nous avons porté plainte contre 6 personnes, et c'est parce que ces 6 personnes sont liées via l'affaire Prénat, et ont eu des informations et ont su les faits de ce prêtre il y a déjà quelques temps.
Et donc d'un système qui a permis de couvrir des abus, et ce pendant des années.
Tout à fait, puisque le cardinal Barbarin a avoué publiquement qu'il avait rencontré le prêtre il y a déjà quelques années, et quelques années après avoir recueilli les aveux de ce prêtre, il l'a promu doyen, ce qui pour moi paraît complètement scandaleux de donner plus de responsabilité à quelqu'un qui vous avoue avoir violé des enfants et abusé d'eux.
Du côté de la défense, vous le savez sans doute, hein, Pierre-Emmanuel Germain-Thil, et peut-être que ça vous choque, mais on entend bien obtenir la relaxe pour le cardinal Barbarin. Selon sa défense, avoir connaissance de ce qu'il qualifie d'une rumeur, ce n'est pas avoir connaissance de faits précis. Comment réagissez-vous à cette assertion ?
Bah écoutez, je pense qu'en 2014, il a eu des faits suffisamment précis avec la rencontre d'Alexandre, qui par la suite a rencontré Régine Maire, qui est d'ailleurs dans cette citation aujourd'hui. Et moi, j'ai envie de reprendre les mots de l'un des conseils du cardinal Barbarin, qui il y a 2 ans, nous expliquait dans la presse lyonnaise que nous étions des hommes avec des situations enviables et plutôt bien. Donc je vais expliquer aujourd'hui quelle est notre situation.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je trouve ça alors étrange, et les propos du conseil de Monseigneur Barbarin, et je peux tout vous dire, j'ai pas compris ce que vous vouliez nous dire.
En fait, si vous voulez, le but aujourd'hui, c'est d'expliquer quelles conséquences également ont eu ces abus aujourd'hui, puisqu'on nous a souvent regardés comme des adultes.
Oui.
Et pourquoi des adultes parlent aujourd'hui? On sait qu'aujourd'hui, par exemple, 90% des femmes ne portent pas plainte pour viol.
Oui.
Ça prouve encore le silence et ce qui peut se passer dans la tête des victimes. Et le but aujourd'hui, c'est à la fois de débattre du fond du problème juridique de cette non-dénonciation, mais également de ce qu'ont subi les hommes que nous sommes aujourd'hui.
Le cardinal Barbarin a le droit de se faire représenter par son conseil dans ce procès. On ne sait pas s'il sera présent. Est-ce que vous espérez qu'il le sera effectivement?
J'espère. Écoutez, moi, si on avait porté plainte contre moi, quels que soient les motifs, la moindre des choses, ce serait de me présenter, d'autant plus qu'on nous dit à tort et à travers que c'est un procès d'intention et qu'il n'y a absolument aucune infraction. Donc, bah, écoutez, moi, j'attends des réponses aujourd'hui.
Comment abordez-vous ce procès dans quel état d'esprit au moment où nous parlons?
Avec calme et bienveillance. Moi, je suis là pour discuter, pour écouter et répondre aux éventuelles questions qu'on pourra me poser.
Il n'y a pas de désir de vengeance ?
Absolument pas. C'est un désir de vérité et surtout un devoir citoyen.
Vous pensez qu'en fait, on doit enfin savoir que les choses doivent être dites clairement en justice et qu'elles soient claires pour l'ensemble des Français qui sont préoccupés par ces questions ?
Exactement. L'important, c'est que ce genre de choses ne se reproduisent plus et que l'Église continue un profond changement pour que demain, elle s'en retrouve grandie.
Pensez-vous que l'Église française aujourd'hui fasse le nécessaire pour combattre ces abus?
Concrètement, je ne le sais pas. J'ai l'impression, au vu des dernières annonces, et notamment cette réunion à Lourdes en novembre dernier, que certaines choses commencent à se mettre en place, mais c'est long, puisque c'est des années et des années de fonctionnements bien différents qui sont en train de se remettre en question. Donc je pense qu'il y en a encore pour un moment, mais on a l'impression que ça avance.
À ce même micro, le porte-parole de la Conférence des évêques de France a tenu des mots extrêmement forts, et il ne semblait pas possible de pouvoir, si vous voulez, mettre en doute sa bonne foi dans le désir d'améliorer les choses et de dire la vérité, c'est-à-dire de faire un effort de vérité. Est-ce que vous pensez qu'en cela, il porte bien la parole de l'Église catholique française et qu'il y a une bonne foi, même si le terme peut surprendre, de nos évêques aujourd'hui pour qu'on sache enfin la vérité, sans excès, mais tout simplement qu'on la sache?
Alors concernant ce porte-parole, il est tout à fait de bonne foi. Après, est-ce qu'il est représentatif de tout ce qui se passe dans l'Église et de tous les évêques ? La suite nous donnera voilà les éléments pour savoir si l'Église vraiment a pris conscience et provoque un changement en interne.
Vous avez des doutes ?
Pour l'instant, oui, on veut voir des actes concrets, des rapports concrets, des choses vraiment beaucoup plus concrètes que ce qui se fait en ce moment. Pour l'instant, on a encore un petit peu de doutes. On verra dans les semaines et les mois à venir ce qui se passera.
Des doutes qui sont liés au fait que sans doute, ou possiblement peut-être, des responsables aujourd'hui en place aient pu couvrir des faits de ce type ?
Tout à fait. L'affaire Barbarin, bien qu'il y ait plusieurs personnes dans cette plainte, n'est que la troisième affaire depuis le début des années 2000, dans le cadre de la non-dénonciation. Et quand on sait le nombre de cas qui sont sortis, c'est vrai que c'est assez incroyable de voir qu'il n'y a eu que 3 procès.
Pierre-Emmanuel Germain-Thil, avant de nous séparer, j'aimerais juste savoir ce que vous retenez de ces années de combat qui ont été les vôtres à l'orée de ce procès. Est-ce que vous y avez appris peut-être ?
J'y ai appris beaucoup de choses, notamment sur la protection de l'enfance, où on en était aussi bien dans l'Église que dans d'autres institutions, mais également que ce mal touchait, puisque pendant pratiquement toute ma vie, j'ai cru que j'étais la seule victime à la fois de ce prêtre, mais également d'une manière générale dans le monde. Mmh. Et je me suis rendu compte qu'en fait, des victimes, il y en avait partout, dans le milieu familial, dans le milieu de l'école. Et j'ai l'impression que depuis déjà quelques années, les lignes ont bougé, en partie grâce à nous, mais pas que. Et pour moi, ça, c'est déjà une première victoire.
Merci beaucoup, Pierre-Emmanuel Germain-Thil. Je rappelle que vous êtes l'une des victimes du père Prénat. Et merci à Frédéric Perruche, notre correspondant, qui était à vos côtés depuis notre bureau de Lyon, alors que le procès s'ouvre aujourd'hui.
Yves Calvi, RTL Matin.
Pour tout comprendre de l'actualité.